Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par les radios associatives non commerciales de votre région. C'est Radio Lodève qui en est le rédacteur pour ce mois de février. Au sommaire de ce carnet de région, le département de l'Hérault qui enregistre les frais bancaires les plus chers, suivi de près par les Pyrénées-Orientales. Le président national de la Confédération du logement et du cadre de vie, Jean-Yves Manot, a livré son constat général auprès d'Eréari Soumeng de Radio Aviva. Lucille Florent, la vice-présidente du groupement de réflexion et d'action pour l'animal, parlera de l'arrivée de 5 chiens de laboratoire à la SPA de Millau auprès d'Aurélie de Radio Larzac. Et enfin, un sujet magazine avec Radio Bartas et Camille Jonin qui a rencontré Muriel Pascal, porte-parole de la Confédération paysanne de Lozère, et Fabien Dubreuil, apiculteur, qui sont inquiets sur les difficultés que rencontre le monde apicole actuellement.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Le prix des banques a de nouveau augmenté, carton rouge pour l'Hérault. Selon l'enquête annuelle de l'Association de défense des consommateurs, CLCV, l'Hérault est le département qui enregistre les frais bancaires les plus chers, suivi de près par les Pyrénées-Orientales. Jean-Yves Manot, président national de la Confédération du logement et du cadre de vie, CLCV, nous livre son constat général.
Année après année, les banques augmentent leurs prix de façon déraisonnable, deux chiffres. L'inflation a augmenté au cours de ces dernières années de 1,9%, les tarifs bancaires ont augmenté de 11%. Et l'Hérault a en plus un carton rouge dans la mesure où c'est le département où, en moyenne, les tarifs sont les plus élevés par rapport aux autres départements. Sans doute, il y a une spécificité locale. Pourtant, la clientèle locale n'a pas des moyens extraordinaires. Et les gens les plus précaires, malheureusement nombreux dans ces régions-là, sont le plus pénalisés par le secteur bancaire de façon générale.
Alors que la hausse globale est d'1,5% en France métropolitaine, dans l'Hérault, elle est de plus de 3%. L'arrivée de la banque en ligne a permis au secteur bancaire d'être concurrentiel. Et prochainement, la loi mobilité pourrait notamment faire baisser les tarifs bancaires sur l'ensemble du territoire. Réponse avec Jean-Yves Manot, le président de la CLCV.
La loi mobilité permet à tout un chacun d'aller voir la banque d'à côté pour voir si les tarifs sont préférentiels. Qu'est-ce qui freinait aujourd'hui ce mouvement? C'était que pour un certain nombre de banques, ils ne facilitaient pas les choses dans la mesure où c'était à vous, consommateurs, clients, d'avertir l'ensemble des personnes, caisses d'allocation familiale, salaire, EDF, GDF, etc., que vous aviez changé de banque. Là, ce qui va faciliter les choses pour le consommateur, c'est la banque qui vous reçoit, qui va avoir la responsabilité d'avertir l'ensemble des partenaires habituels de votre compte en banque. Et donc, le client n'aura rien à faire, profitez de cette opportunité.
La Confédération du logement et du cadre de vie invite donc les consommateurs à faire jouer la concurrence, notamment avec l'entrée en vigueur de la loi sur la mobilité bancaire le 6 février dernier. C'était un reportage d'Eréari Soumeng de Radio Aviva. Cette semaine dans Carnet de région, Radio Larzac vous propose d'écouter l'extrait d'une interview avec Lucille Florent, vice-présidente du GRAL, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Elle nous parle de l'arrivée de 5 chiens de laboratoire à la SPA de Millau. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur l'audioblog de Radio Larzac.
La société protectrice des animaux avait de la place pour accueillir ces 5 chiens qui étaient disponibles à l'adoption, qu'un laboratoire nous a proposé de replacer. Ils ont été ravis de pouvoir accueillir ces 5 beagles la semaine dernière. Voilà.
Donc ils viennent de laboratoire, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça implique de particulier sur ces chiens?
Alors, ces chiens, en particulier ces 5 chiens, donc il s'agit de 5 chiens de race beagle. Donc ils ont 3 à 6 ans, on a 2 femelles et 3 mâles. Le laboratoire nous a indiqué qu'ils avaient servi donc pour des tests de pharmacocinétique. Alors c'est un mot un petit peu barbare qui veut tout simplement dire qu'ils ont servi à tester en fait de nouvelles molécules. Alors on ne sait pas si ces molécules sont pour des médicaments vétérinaires ou pour de la médecine humaine, mais voilà, on leur administre des molécules à petite dose et on voit si des chercheurs examinent les réactions de l'organisme des chiens à ces molécules, voilà, dans le cadre des protocoles de fabrication de médicaments. Voilà.
D'accord, donc il est important de rappeler qu'ils sont aujourd'hui en bonne santé.
Tout à fait. En fait, c'est obligatoire. Un vétérinaire doit les examiner avant leur sortie du laboratoire. pour attester qu'ils sont en bonne santé, que leur comportement est compatible avec une vie de famille et qu'ils ne présentent pas de risque pour l'homme, l'environnement, voire pour les autres animaux. Il est important de préciser aussi que les services vétérinaires des préfectures du département de où se trouve le laboratoire et où se trouve le refuge donnent leur accord conjoint. Donc c'est validé par les services vétérinaires de la préfecture, cet accord est indispensable. Donc voilà, toutes les précautions sont prises et ces animaux sont effectivement en très bonne santé et aptes à une vie de famille lorsqu'ils sortent du laboratoire.
Et quelles sont les règles de confidentialité et de transparence que vous imposez au Graal, enfin à l'association, pour respecter le laboratoire ou les familles et la SPA?
Alors effectivement, donc en fait les laboratoires, donc on travaille depuis plus de 10 ans avec eux. Quand un partenariat se fait avec un laboratoire, on signe un contrat avec ce laboratoire. Et effectivement, il est prévu que l'anonymat du laboratoire doit être préservé. Donc ça, c'est une condition sur laquelle aujourd'hui, il n'est pas possible de déroger. Nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de jouer cette interface entre les laboratoires et les refuges. On ne communique jamais le nom du laboratoire. Et il n'est pas possible de savoir d'où proviennent les animaux lorsqu'ils arrivent sur le refuge. Voilà, donc le laboratoire cède ses animaux au Graal et ensuite le Graal les cède au refuge. Donc ça se fait en deux temps. Et effectivement, cette notion de confidentialité aujourd'hui, elle est quand même au cœur de la relation de confiance qui s'est créée quand même au fil des années avec les laboratoires et le Graal, puisqu'on est la seule association à travailler avec les laboratoires aujourd'hui, à permettre que ces animaux accèdent à une nouvelle vie. Mais il faut rappeler que les laboratoires sont quand même volontaires dans cette démarche de réhabilitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérimentation animale, malheureusement, elle est légale, elle est autorisée. La réhabilitation animale, si elle est possible, elle n'est en rien obligatoire. Rien n'impose au laboratoire de réhabiliter les animaux en fin de protocole qui peuvent l'être. Donc c'est vraiment une démarche volontaire des laboratoires et le fruit d'une collaboration entre notre association, les laboratoires et derrière tous nos refuges partenaires.
Et pour les conditions d'adoption, pour les particuliers qui seraient intéressés, est-ce qu'elles sont différentes d'une adoption ordinaire auprès d'un refuge SPA ?
Alors finalement oui et non, parce qu'on a des profils de chiens vraiment très différents. Rien que dans ce petit groupe de 5 chiens, on va avoir des caractères assez différents. On a des chiens qui vont être très vifs, très curieux, très joueurs, d'autres qui vont être beaucoup plus doux, un peu timides, un peu plus câlins. Donc voilà, après en général, on dit souvent que ces animaux, même quand ils sont adultes, leur comportement se rapproche de celui d'un chiot, puisqu'ils ne sont pas forcément éduqués à la marche en laisse, à la propreté, donc ils ont des comportements qui vont se rapprocher de jeunes animaux. Et nous, en fait, on fait un vrai travail avec nos refuges partenaires, dont le refuge de Millau de la Société Protectrice des Animaux, puisque cette période pendant laquelle les animaux transitent en refuge est très importante. Les équipes appliquent des méthodes d'éducation positive, elles stérilisent les animaux avant leur sortie, c'est très important. Elles font un vrai choix des adoptants pour leur trouver la meilleure famille. Il faut quand même avoir en tête que ce sont des animaux qui, pour la plupart, ont vécu pendant des mois, voire des années, ensemble, en groupe social, qu'ils ont vu des gens toute la journée. Et du coup, c'est vrai qu'on va essayer de s'orienter quand même vers des adoptants qui sont assez disponibles, au moins pour les premières semaines, parce que ce sont des animaux qui vont quand même très mal supporter de se retrouver tout seul pendant 10 heures par jour si toute la famille travaille, va à l'école, etc.
C'était une interview réalisée par Amélie de Radio Larzac avec Lucille Florin, qui est donc vice-présidente du Graal, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur l'audioblog de Radio Larzac. Le monde apicole est inquiet. Muriel Pascal, porte-parole de la Confédération paysanne de Lozère, et Fabien Dubreuil, apiculteur, expriment leur inquiétude face au retard de paiement de la PAC, la politique agricole commune, ainsi que des difficultés rencontrées dans le monde agricole. Après en avoir alerté le préfet à travers une lettre ouverte, Camille Jomain les a rencontrés pour Radio Bartas.
Muriel Pascal, porte-parole donc de la Confédération paysanne de Lozère, et Fabien Dubreuil, apiculteur. Alors, tu as écrit, Muriel, une lettre ouverte justement au préfet de Lozère pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu peux nous en faire un résumé de la situation et de la lettre dont tu es la porte-parole?
Oui, donc cette lettre ouverte, elle a été écrite dans un contexte de demande de rendez-vous au ministre, donc par la Confédération paysanne nationale. Pour justement évoquer tous les problèmes liés à l'apiculture du moment. Donc cette lettre envoyée au ministre a été et aujourd'hui encore sans réponse, c'est-à-dire que le ministre nous a pas honoré de son rendez-vous. Donc voilà, nous, au niveau local, on a constaté aussi qu'on avait des gros soucis en apiculture. Et on a voulu aussi un petit peu relayer, appuyer cette demande en faisant, en intervenant auprès du représentant de l'État, qui est monsieur le préfet. On a des problèmes de retard de paiement des deux PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Donc on sait aussi que les apiculteurs ne sont pas non plus les mieux lotis pour ce qui est des aides européennes. Donc le peu qu'on a actuellement, on ne nous l'a pas donné. On va dire qu'il y a un retard de paiement assez global sur le territoire par rapport aux aides de la PAC. Les éleveurs en ont fait les frais aussi. Mais nous, en apiculture, en fait, on n'a absolument rien eu des aides 2016 qu'on aurait dû toucher. Et on a appris que les dates de paiement étaient vraiment allaient traîner vraiment longtemps pour le paiement de la MAE. La MAE, donc, c'est la mesure agro-environnementale à laquelle nous avons droit. Voilà. C'est la seule, hein, d'ailleurs.
Parce que là, en plus, on parle de paiements qui devaient arriver l'année dernière et qui arriveront peut-être fin 2017, je crois. C'est ça le retard,
voilà.
Hein, il est presque de 2 ans.
On a appris que les paiements des aides 2015 allaient se faire à peu près au printemps 2017, le solde, et le paiement des aides 2016 ne se ferait qu'à la fin de l'année 2017. Donc c'était quand même assez scandaleux, quoi. Surtout qu'il y a des soucis de trésorerie, on a des problèmes de mortalité, on doit faire face à plein de problèmes.
Alors, et puis on nous change les dates régulièrement, on sait pas, de mois en mois on apprend des dates nouvelles, donc vive la trésorerie pour les petites exploitations, quoi. Faites comme bon vous semble, comme vous pouvez.
Justement, je voulais revenir avec toi, Fabien. On parlait justement de problèmes que rencontrent les éleveurs. J'ai vu des chiffres, moi, personnellement, des pertes de récoltes de moins 50 à moins 80%. Un chiffre sur le site officiel qui disait qu'en 2010, il y avait 18 330 tonnes de miel et on est passé à moins de 10 000 en 2016. Il y a ça, il y a quoi d'autre, en fait, qui pose problème face à ton métier? Pour faire un résumé global, hein, parce que
c'est... c'est très, très compliqué pour essayer d'être pragmatique, ce qui est dur. Sur ce sujet-là, il y a un manque à la production réelle. Le prix du miel a suivi, a augmenté, donc ce qui comble un petit peu ce manque à gagner, entre guillemets, mais surtout, je trouve, la difficulté en tant qu'éleveur paysan à subir des mortalités très régulières et continuer à remonter notre cheptel sans arrêt. On a le ventre serré à chaque fois qu'on arrive sur nos ruchers en saison, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc ça, c'est, je pense, de demander à un éleveur lambda s'il accepterait de perdre un tiers de son cheptel régulièrement, quoi.
Chaque année.
Et un tiers, ça peut aller plus loin, comme tu dis. À l'heure d'aujourd'hui, et l'hiver étant loin d'être fini, je suis déjà à peu près à 30% de perte sur mon exploitation de 300-400 ruches.
Revenons à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on en était aux problèmes de subventions qui sont très, très en retard. Comment ça se fait qu'elles aient ce retard, vous savez, ou pas?
Oui, parce qu'en fait, il y a eu des gros soucis de mise en œuvre de cette politique agricole commune là depuis 2 ans, notamment avec le problème de la proratisation des surfaces, on va dire, dans les zones telles que les Cévennes, des surfaces qui sont peu productives, avec présence de broussailles. Et donc, il y a eu beaucoup de retard lié à la mise en place de contrôles, qui étaient les visites rapides à ce moment, depuis 2 ans, on va dire.
Posées par l'Europe.
Oui. Mais par contre, bon, ces retards, il y en a souvent, mais ben, cette année, c'était quand même quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est la MAE, nous, on a fait partie un peu de la dernière roue du carrosse, puisque la MAE, c'est l'aide qui sera payée en dernier. Donc voilà, étant la seule aide à laquelle on peut prétendre, c'est quand même, pour nous, un préjudice assez sévère. Donc voilà, ce rendez-vous au préfet a permis d'avoir de nouvelles dates, puisque les dates qu'on nous avait annoncées en CDOA, comme disait Fabien, ça change régulièrement. Et là, ça a encore changé de manière un peu plutôt positive pour ce qui est de la MAE 2016, puisqu'elle sera payée en mars 2017.
Le but de cette lettre était quand même d'alerter on va dire l'État, en fait, simplement. Vu qu'il n'y a pas encore de réponse, quelle autre solution peut-être, quelles solutions sont envisageables là maintenant dans votre situation?
Alors il y a, on va dire, on sait qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau national, et là on a, à part d'aller voir le préfet, de lui demander de faire remonter ce qu'il va faire, hein, il s'est engagé à le faire, de faire remonter nos doléances et nos soucis. Il y a l'échelon départemental avec le dialogue avec la DDT, la Direction départementale des territoires, donc qui est là pour appliquer la politique nationale. Donc voilà, on a des interlocuteurs au niveau local, on va s'employer à utiliser tous les leviers à notre disposition, même si on sait qu'ils sont peu adaptés à l'apiculture et qu'ils sont difficiles à activer. Je pense particulièrement à un dispositif qui permet aussi de pallier à des soucis de récolte, mais bon, on en sait les limites, c'est le dispositif calamité agricole qui permet d'indemniser un tout petit peu lorsqu'on a des pertes sévères de récolte. Voilà, on va essayer de tirer un petit peu toutes les ficelles à notre disposition, mais bon, voilà, comme je disais, sont très, très peu adaptés à l'apiculture. C'est ce aussi qu'on voulait faire remonter, nous montrer que nous, on était vraiment... Alors qu'on ne pèse pas lourd, on va dire, les apiculteurs en termes économiques ne pèsent peut-être pas très lourd au niveau économie directe de ce que ça génère. Mais par contre, si on regarde tout ce qui est indirect au niveau de la pollinisation, on commence à peser très lourd. Puisque sans les insectes pollinisateurs, l'agriculture, elle aurait de gros soucis quand même. On est vraiment, si on n'élève pas un peu la voix de temps en temps, on pourrait mourir de notre belle mort et personne ne broncherait.
Je pense au niveau économique, on pèse quand même le PIB du Portugal ou de l'Irlande au niveau mondial.
Et là, je voulais peut-être me tourner vers Fabien, parce que dans la lettre, il y a un moment où dit l'opinion sur les apiculteurs, donc qui ont des mortalités par rapport à leur cheptel, c'est qu'ils savent pas faire leur métier. C'est une opinion répandue. Est-ce que c'est vraiment le cas? T'as cette impression, Fabien? Ou moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse auprès du public, que c'est genre il y a des gros problèmes en ce moment justement par rapport à la mortalité des abeilles, et ça ne vient pas des apiculteurs, ça vient du monde moderne en fait simplement. Quel est ton point de vue là-dessus?
Je dirais que mon point de vue rejoint un petit peu le tien quand même, heureusement pour moi, pour aussi informer les gens, c'est que donc je me suis installé il y a que 7 ans en arrière, et je suis quand même retourné un an à l'école faire un BPRA à apiculture, mais pour dire qu'on est quand même relativement bien formé. On nous apprend, on nous fait entendre ce qu'on veut bien. Bon, après c'est aux gens de faire la part des choses, mais je crois que le monde apicole, le monde des insectes, est les grands oubliés du 21e siècle. Ça représente une masse considérable, une biodiversité considérable. Ça serait donc face à cette agriculture intensive, ça serait compliqué de le mettre en avant, toute cette masse d'insectes auxquels on ne fait pas attention aujourd'hui. Et il serait bien d'ouvrir les yeux un jour.
Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.
Merci
beaucoup.
Et puis à bientôt.
Voilà, c'est tout pour ce carnet de région. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.